d'abord, moi, j'étais à l'intérieur du parc national de Virunga, au bord du lac Edoua. Je suis un fils d'un pêcheur. Le parc national de Virunga, à travers le lac Edoua, nous avait beaucoup donné. Et c'est grâce à ce lac que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous, on est vraiment déterminés à protéger le parc national de Virunga. Et à part ça, le parc national de Virunga est protégé par les textes légaux et les conventions internationales auxquelles notre pays avait librement ratifié. Donc nous avons l'obligation de protéger ce parc puisque c'est notre marmite.
Depuis plus de 20 ans, le parc national de Virunga est menacé. Quels sont les dangers qui pèsent sur ce territoire?
Parmi les dangers, il y a tout d'abord le braconnage qui est effectué non seulement par les communautés locales, mais aussi par les étrangers qui viennent chercher les ivoires, les peaux de léopard, par exemple, les bébés gorilles. À part ça, il y a les communautés locales qui, à cause de la famine, entrent dans les parcs pour aller chercher de la viande. Et à part le braconnage, il y a les politiciens aussi qui utilisent le parc comme un outil afin d'accéder au pouvoir facilement. Il y a maintenant le grand danger qui est le pétrole. Pour nous, exploiter le pétrole dans le parc national de Virunga, c'est une violation de nos propres lois, des textes et des conventions que notre pays avait ratifiées.
Selon votre association, l'innovation pour le développement et la protection de l'environnement, les solutions durables ne s'obtiennent que si l'on parvient à réunir conservation et développement. Plus précisément, quelles sont les actions que vous mettez en place?
Pour résoudre le problème du braconnage, nous concilions la conservation et le développement. C'est ainsi que nous avons quelques activités génératrices de revenus que nous avons implantées dans quelques agglomérations situées dans et autour du parc national de Virunga. Et cela avec l'appui de l'IFN Pays-Bas. C'est par exemple les clapiers communautaires. Chaque mois, nous essayons de distribuer au moins un couple de lapins dans chaque ménage. Et cela avance très bien. Il y a des témoignages des parents qui confirment que cela aide à scolariser leurs enfants et cela aide aussi à subvenir à leurs besoins. À part ça, il y a un laboratoire pour la production de mycélium qui encadre plus de 600 familles pour le moment qui sont en train de fabriquer des champignons. Il y a aussi un incubateur de capacité de 1580 F qui est aussi encadré que les communautés utilisent pour avoir du travail pour le moment. En fait, nous avons beaucoup d'activités génératrices de revenus qui sont soutenues par les communautés et qui les aident à subvenir vraiment à leurs besoins.
Êtes-vous soutenu par les autorités politiques pour mener ce travail?
Dans notre pays, c'est contraire à d'autres pays où nous voyons les autorités soutenir les associations. Et ici, chez nous, nous recevons les aides de la part des ONG internationales, comme par exemple l'ICN Pays-Bas. C'est grâce à l'ICN Pays-Bas que nous avons implanté tous ces AGR au profit des communautés. On peut parler de l'autorité, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui nous aide en termes de sécurité.
Et donc là, vous rentrez du congrès de l'IUCN à Hawaï. L'IUCN est un pont entre le savoir scientifique et l'expertise terrain des communautés locales. Votre présence à ce congrès vous a-t-elle permis de gagner en connaissances?
Oui, en tout cas, ce congrès nous a vraiment beaucoup été très bénéfique puisque ça nous a permis de rencontrer des personnes des quatre coins du monde. Et cela nous a beaucoup vraiment réjouis, car c'était vraiment une joie pour nous de rencontrer ces gens-là, puisqu'on a échangé avec d'autres, on a vraiment partagé des expériences. Pour nous, ça nous a vraiment beaucoup valu. Et nous profitons de votre radio pour remercier l'ICN, puisque ça va nous permettre de bien faire encore plus. Peut-être que ça va permettre à d'autres acteurs de la société civile de nous imiter et peut-être de faire plus que nous.
Alors, quelle action comptez-vous mener dans les prochains mois?
Nous sommes en train de mener un plaidoyer pour que les crimes environnementaux soient vraiment acceptés au niveau mondial, pour qu'ils puissent vraiment considérer les crimes environnementaux à l'instar des crimes contre l'humanité. Et c'est ce que j'ai demandé au niveau de l'ICN au congrès de Hawaï. Par exemple, avec la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le Virunga, où l'entreprise Soko est en train vraiment de tout faire pour qu'ils puissent exploiter le pétrole dans les parcs nationaux de Virunga. ça peut nous aider vraiment à protéger non seulement les Virunga, mais aussi d'autres parcs du monde qui sont aujourd'hui convoités par les multinationaux.